Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, en France, c'est pas un problème de se dire qu'on peut pas aller faire une émission de télévision en banlieue parisienne ?
Nous sommes en guerre.
Les forces de l'ordre chargent quasi exclusivement cagou de gaz lacrymogène.
Nous sommes en guerre.
Et je trouve qu'on parle pas assez du traumatisme que ça produit, surtout chez les personnes racisées.
Nous sommes en guerre.
Il faut trouver un moyen de mieux contrôler les réseaux sociaux. C'est le problème numéro un.
Ah, il faut trouver un moyen, nous sommes en guerre. On n'est pas encore à Noël, on n'est pas encore à la trêve des confiseurs. Entre parenthèses, ici à Sud Radio, en tout cas dans mon émission, on ne parlera pas des fêtes de fin d'année, on parlera des fêtes de Noël et du Nouvel An. Hein. Que cela soit dit, ça va, on n'a pas peur des mots, c'est grotesque de dire ça, parce que franchement, avoir peur de dire Noël et Nouvel An sous prétexte de choquer et d'être politiquement correct, c'est assez ridicule. Enfin, on va parler effectivement des manifestations de vendredi, de samedi, et on va en parler pas seulement pour ce qui s'est passé à Paris, à Lyon, à Bordeaux et ailleurs, pour ce qui s'est passé aussi dans les plus petites villes, comme par exemple à Cahors, dans le Lot. Et oui, vous allez voir, ce n'est pas seulement dans les grandes villes que ça se passe. Et d'ailleurs, beaucoup de médias ne s'occupent que des grandes villes. Erreur. La France, elle est partout et il faut savoir ce qui se passe en profondeur. Et puis, on va expliquer effectivement ce qui se passe. Pourquoi le service public, France 2, ne peut plus faire une émission où elle veut en France. Et oui, ce n'est plus possible. Pourquoi ? Et puis, on va recevoir Rokhaya Diallo, qui, avec Blachette, a fait un livre de BD qui s'appelle « M'explique pas la vie, mec ». Ouais, c'est-à-dire, c'est évidemment les femmes s'entêtent, les femmes prennent le pouvoir et elles le prennent en BD, en bande dessinée. Et ça, c'est drôle. Et évidemment, c'est un mâle hétérosexuel blanc de plus de 50 ans, c'est-à-dire moi, qui va évidemment s'expliquer avec Rokhaya Diallo et sa bande dessinée. À tout de suite.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Marche de liberté, tabassage d'un producteur de musique, lynchage de policiers. Ah, tout va vraiment pour le mieux dans la meilleure des France hein, en ce moment. Ça marche bien. Hein. Marche des libertés, évidemment, contre cette loi que peu de gens supportent. Le floutage, qu'est-ce que ça veut dire ? On va en parler et on va parler surtout des deux poids et deux mesures. À tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Ici sur cette place de... Ça charge. Ok, des forces de l'ordre qui procèdent à une nouvelle charge contre certains manifestants, contre certains casseurs, on peut utiliser ce terme-là, hein, puisque visiblement c'est le cas. En tout cas, voilà, situation extrêmement tendue ici sur cette place de la Bastille avec des incendies. Un peu partout, hein, des véhicules incendiés, des motos, un kiosque à journaux, et puis maintenant on s'en prend à des bâtiments de l'État français. Donc le gaz lacrymogène qui arrive de nouveau jusqu'à nous, et l'air va bientôt être irrespirable.
Et voilà, air irrespirable, on s'en prend à la Banque de France, hein, on s'en prend à la Matmout, Place de la République, etc. On s'en prend à certains commerces, on brûle des voitures. Mais auparavant, ça s'était très bien passé. Il y a des centaines de milliers de gens qui ont protesté et qui ont défilé à travers la France pour protester contre cette loi hein, sur le contrôle, la proposition de loi sécurité globale. Encore une fois, on peut se demander franchement si les gens qui font des lois en ce moment prennent le temps de réfléchir, font des articles 24, floutage des policiers. Mais en même temps, on voit qu'à France 3, par exemple, pour parler de France 3, à Bordeaux, ils ont flouté les casseurs. Oui, ils ont flouté les casseurs. Alors, de deux choses l'une, ou on floute tout le monde, ou on ne floute personne. Moi, personnellement, je suis pour qu'on ne floute personne. Il n'y a pas de raison. S'il y a des casseurs, il n'y a aucune raison qu'ils soient floutés. Et s'il y a des policiers qui font des choses, aucune raison qu'ils soient floutés. Alors, on ne va pas rentrer effectivement dans les détails, vous l'avez entendu depuis hier, depuis 48 heures, on ne parle que de ça. Effectivement, le tabassage d'un producteur de musique par trois policiers, et les images sont assez terribles. Mais en même temps, on ne parle pas beaucoup quand même, des policiers, et ils ont été nombreux. 98 policiers parmi les policiers et les gendarmes pendant la manifestation vendredi, samedi. 20 policiers, et puis il faut le dire, la police quand même, 20 policiers agressés quotidiennement, 63 commissariats attaqués depuis le début de l'année. Et puis par exemple, à Dax, ils ont attaqué la voiture Bélier. 3 policiers blessés hier face à 40 personnes. Qui en parle ? C'est vrai qu'ils en parlent. Mais nous, on a décidé de faire ce qu'on a décidé de faire, c'est justement de quitter Paris, de quitter Lyon, de quitter Bordeaux, et d'aller voir à Cahors, dans le Lot. À Cahors, dans le Lot, pour la première fois depuis très longtemps, depuis d'ailleurs de mémoire de Lotois, eh bien, il y a eu une attaque des bâtiments publics, il y a eu une attaque de bâtiments publics dans la nuit de vendredi soir à samedi. Marc Prugnot, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du Petit Journal du Lot. Dites-moi ce qui s'est passé, parce que c'est aussi important de parler ce que se passe à Cahors que ce qui se passe à Paris, à Marseille, à Lyon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et je crois que c'est pour vous, c'est de l'inédit, si on peut dire.
C'est inédit, c'est une première. On n'a jamais entendu de tels phénomènes chez nous. En fait, dans la nuit de vendredi à 22h à samedi au 28 novembre,
oui.
3 cocktails Molotov au moins, voire 4, ont été... jeté à l'arrière du bâtiment du commissariat sur les voitures de police et des voitures appartenant au personnel. Et,
oui.
Et tout a été détruit quasiment. Heureusement, les policiers se tenaient à l'intérieur du commissariat et ils sont intervenus. Juste, ils ont eu le temps de dégager quelques véhicules sérigraphiés pour les mettre hors de danger. Mais enfin, bon, tout a brûlé, quoi. Alors,
oui.
Ces actes chez nous, c'est du jamais vu. C'est du jamais
ah,
vu.
Ouais. Ouais. C'est-à-dire personne ne se de mémoire de Lotois, en tout cas, on ne se souvient pas.
Non. Mais nous, quand il y a des manifestations, ça se passe très bien. Les RT viennent, discutent avec les manifestants, les organisateurs. Allez, on peut passer où ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? La dernière fois qu'il y a eu des problèmes, c'est quand Sarko est descendu à Cahors. Il avait de suite voulu sacraliser le centre-ville. Bon, il y a eu quelques petits frottements, mais c'était des mots.
Ouais,
les Lotois sont civiques, quoi. Il n'y a pas de...
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe, là, à votre avis ? Comment, Marc Prugnot, vous interprétez cela ? Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Il n'y a pas eu d'arrestation avant ça ? Il n'y a pas eu, je veux dire, de réaction
Nous, on s'est dit, est-ce que la police a démantelé des réseaux de trafiquants de drogue ? Non.
Oui.
Est-ce que, à part les arrestations classiques, les contrôles classiques, où le gars, il a 2-3 grammes, non, ça va, des fois, une dizaine. Non, bon, nous, on ne connaît pas la mafia, c'est un milieu rural. S'il y a des vols, c'est des vols de jambon et de magret, j'exagère, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on s'est posé beaucoup de questions, et c'est arrivé quand même. C'est arrivé, je crois, le soir ou le lendemain, justement, du passage à tabac de ce producteur. Donc,
D'accord. On
s'est dit, peut-être que 2 ou 3 personnes, des ultra-gauches ou j'en sais rien, se sont réveillées et ont décidé de passer à l'action. C'est possible.
Mmh.
Enfin, des cocktails Molotov contre un établissement public, c'est un symbole fort chez nous.
Mmh.
La population, je peux vous dire, d'Ancahors est sous le choc.
Ouais.
Des dizaines de personnes ont témoigné, c'est très surprenant, ont envoyé des messages de soutien aux policiers en disant « tenez bon, ne lâchez rien ». Quoi.
Mm-hmm.
Nous, on n'est pas habitués à ce genre de violence. Alors, on ne connaît que la violence par l'image, en fait, qui nous vient de Paris, qui nous vient de ces grandes agglos, de ces cités. On connaît, et là, jouer du cocktail Molotov à Cahors, qui est un grand village, en fait. Il y a moins de 20 000 habitants.
Oui.
On est en milieu rural. On ne comprend pas.
Mmh.
Alors, l'enquête, peut-être, déterminera. Je ne sais pas s'il y avait des caméras, je ne pense pas. Je pense que ça a été assez furtif. Ça va être très difficile.
Mais est-ce que, au-delà de l'enquête, Marc Prugnot, est-ce que, en fait, ça dénote que quelque chose se passe, enfin, même si c'est à bas bruit, comme on dit, mais enfin, quelque chose se passe, on a l'impression, dans toute la France, c'est-à-dire qu'il n'y a plus...
Il y a cette porosité, bien sûr.
Ouais,
mais bien sûr, c'est évident, ça y est.
Ouais.
Ça arrive chez nous. C'est comme le virus, c'est arrivé chez nous. On avait la paix, il est arrivé en force.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cette porosité. Après, nous, médias, est-ce qu'on est responsable? Je ne sais pas de ce mal-être, je ne sais pas. Je pose des questions. Mais de toute façon, cette haine anti-flic, là, elle est claire. On ne balance pas des cocktails Molotov sur un commissariat, le symbole est trop fort. Quoi. Il s'est passé quelque chose.
Ouais. Et est-ce que et vous avez dit, enfin, quand on en parlait avant l'émission, vous m'avez dit que les policiers auraient pu être eux-mêmes touchés.
Bien sûr, pourquoi? Parce que dès qu'ils ont été alertés, ils sont sortis. Ouais. Et un véhicule déjà prenait feu, imaginez si ce véhicule explose. Ouais. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, hop, on va essayer de sauver les autres. Ils sont montés dans les autres véhicules et ils les ont déplacés.
Ouais.
Bon. Pour pas que le parking, en fait, prenne feu en totalité. Hein.
Oui, bien sûr.
Mais vous imaginez, quand la voiture a explosé quelques secondes après, si un policier était passé juste à côté pour monter dans la bagnole.
Oui, bien sûr.
Enfin, non, mais là, c'est une catastrophe. On a un mort. On a un mort.
Il y a un mort. Ah oui, il y a un policier.
On aurait eu forcément un mort. C'est pas possible.
Oui, oui. À ce moment-là,
il peut pas s'en sortir comme.
C'est clair.
Voilà. Donc c'est ça qui est choquant, c'est cette violence. On la comprend pas. Puis on n'a pas d'explication.
Ouais.
On n'a pas d'explication. C'est incroyable. Alors je sais pas si c'est le procureur de la République, Frédéric Almendros, nous a dit que lui ne voyait pas forcément de lien avec l'actualité nationale.
Mmh.
Bah écoutez, nous on n'en voit pas de lien, on voit pas de lien avec l'actualité locale.
Oui, c'est ça, oui.
Expliquez-moi pourquoi vous avez dit, enfin je ne sais pas, cette voiture Bélier, vous en avez parlé tout à l'heure à Dax.
Oui, à Dax, oui.
Il y avait une raison, vous la connaissez?
Ben, on ne sait pas, on sait que voilà, ils ont été attaqués à la voiture Bélier, 3 policiers blessés face à 40 personnes à Dax. Là, c'est pas justement à Paris, Lyon, Marseille ou ailleurs, il se passe quand même quelque chose de... C'est pour ça que justement, quand nous avons lu, quand j'ai lu ce qui se passait à Cahors, je me suis dit, mais attendez, ça a atteint Cahors, qu'est-ce qui se passe? Mais à votre avis, vous, alors, le journaliste que vous êtes, l'enquêteur que vous avez vraiment l'impression, et là je vous demande votre ressenti, Marc Prugnot, que c'est devenu national tout ça maintenant, que c'est parti pour être national?
Ben écoutez, moi, quand j'allume ma télé, comme tous les Français, il se passe toujours quelque chose à Marseille pour une raison X ou Y, à Bordeaux, les gilets jaunes, tout a flambé, Paris, une marche pour la paix qui dégénère comme, je crois, à Strasbourg, vous l'avez commenté aussi, je crois, Strasbourg.
Oui.
Bon, ça y est, le cancer se généralise. Moi, après ces actes de violence policière, bon, on peut en reparler très rapidement. On sait que la police a la légitimité de ces violences. Ok.
Bien sûr.
Mais apparemment,
il ne faut pas qu'elle en abuse non plus. Quoi. C'est tout le problème.
Mais ça, on est complètement d'accord. Il y a des brebis galeuses partout. Alors, il s'est passé. Il faut le dire. C'est le reflet de la société. Bon. Mm-hmm. Mais est-ce que les manifestants, on leur accorde aussi le droit de cette violence, cette légitimité? Moi, je me pose des questions.
Mm-hmm.
C'est une société qui est en train de partir à volo.
Ouais.
Je pense. On respecte plus les flics, donc le flic agacé ne respecte plus celui qu'il va arrêter pour non-port du masque. Peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé en fait avec ce producteur, moi je n'ai pas l'histoire. Je connais pas le début. Comment ça
écoutez, l'enquête le dira. On en a parlé. L'enquête le montrera.
On saura la vérité comme à Cahors. On saura la vérité un jour.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais est-ce que les gens, alors pour finir, dernière question, Marc Prugnot, vous disiez que les Lotois, en tout cas les Cadurciens, sont très choqués. Ils sont vraiment très choqués.
Ah, mais par dizaines. Mais on n'a que des témoignages de gens qui sont choqués.
Ouais.
Après, peut-être que cette minorité qui ne l'est pas ne s'est pas exprimée pour une fois. Parce que généralement, c'est la minorité qui s'exprime le plus. La majorité reste silencieuse.
Mais
la totalité des gens qui se sont exprimés sont sous le choc.
Mmh.
C'est inédit chez nous. Alors, voilà, c'est... Après, on est un territoire rural, les gens, ils se lèvent pour bosser, pour chercher à bouffer, ils ont d'autres soucis que de balancer. Voilà, on ne manifeste pas. Quand on manifeste, on appelle la préfecture pour savoir comment on va manifester, comment ça les arrange, on s'arrange.
Oui, ça se passe, oui.
Bon, on joue pas de nous, il n'y a pas de barre de fer. Même les agriculteurs, quand ils sont hyper en colère, à la rigueur, ils brûlent un peu de paille sur un rond-point, et puis voilà, on n'en parle plus.
On brûle pas les voitures, quoi.
Mais on ne connaît pas ça, ça. Donc là, effectivement, cette porosité qu'il peut y avoir par l'image, par cette ambiance générale, effectivement, vous avez raison, je pense qu'il faut y réfléchir. Il y a un mal-être que je ne comprends pas moi-même. Voilà.
Merci Marc Meuniot, merci de votre témoignage.
Merci beaucoup.
Alors je rappelle Marc Meuniot, rédacteur en chef du petit journal du Lot à Cahors. Alors voilà, 98 blessés parmi les forces de l'ordre ce week-end, des violences inouïes contre la police et même à Cahors, à Dax, à Strasbourg, on a cité toutes les villes justement qui ne sont pas seulement des grandes métropoles. Est-ce que vous comprenez cette violence contre la police? On vous attend, hein, 0826 300 300.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
On pourrait penser que, au fond, la France, c'est la France, hein. Cher pays de mon enfance, berceau de tendre insouciance. C'est beau quand on entend les paroles de Charles Trenet. Et qu'on peut faire des émissions, qu'on peut aller partout, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'état de non-droit, il n'y a pas de territoire perdu, il n'y a pas de territoire conquis. Tout va pour le mieux. Eh bien, c'est pas tout à fait ça. On le savait depuis longtemps, mais on en a eu la preuve il y a quelques jours, notamment à Grigny. Écoutez.
Sud Radio, André Berkoff.
Ça balance pas mal.
Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Grigny.
C'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour, Capri.
Oui, évidemment, c'est Capri, mais Grigny aussi, on a l'impression que c'est mal barré, non pas Grigny. Mais écoutez, quand même quelque chose de très caractéristique de ce qui se passe, et c'est lié avec ce que nous disait Marc Pruniaud un peu plus tôt et partout. Le jeudi 26 novembre, France 2 diffusait un nouveau numéro de son émission politique très connue, Vous avez la parole, qui est présentée par Léa Salamé et Thomas Soto. Eh bien, au cours de l'émission, un débat s'était autour de la question « Une crise de l'autorité » était organisée avec de nombreux invités, dont Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Eh bien, c'est là où le journaliste Thomas Soto a fait une révélation. Écoutez ce que disait Thomas Soto le 26 novembre.
Gabriel Attal, on va dire les choses franchement. Cette émission, on voulait la faire à Grigny à l'origine. C'était notre projet de départ. Et on nous a dit, on n'est pas sûr, on n'est pas capable de sécuriser les lieux. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, en France, c'est pas un problème de se dire qu'on peut pas aller faire une émission de télévision en banlieue parisienne, en étant sécurisé? Ce sont les forces de l'ordre qui nous ont dit ça.
Mais évidemment que c'est un problème, Thomas Soto, mais j'espère que vous êtes conscient que c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui et que peut-être qu'on vous aurait apporté la même réponse il y a quelques années. Évidemment, ça fait des années que c'est un problème qui est dénoncé par des élus.
Mais il est parfait, ce Gabriel Attal. Alors, parce que ça existe depuis des années, on botte en touche. Écoutez bien ce que disait Thomas Soto. Il voulait faire, donc, une émission à Grigny, en Seine-Saint-Denis. Bah, pas de problème. Eh bien, la police, on est en France, en 2020, leur a dit, attendez, on ne peut pas assurer votre sécurité aux équipes de France 2 Service Public. Voilà. Est-ce qu'il y a un commentaire? No comment. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Rien à ajouter. Donc, France 2 ne peut pas faire une émission en Seine-Saint-Denis, notamment à Grigny, notamment, parce qu'on ne peut pas assurer leur sécurité. On leur a dit, attention, c'est trop dangereux. Voilà. Alors après, on peut dire, mais oui, ça existe depuis longtemps. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire que si ça existe depuis longtemps, ça va encore exister dans 50 ans. C'est-à-dire en 2050, on va pouvoir faire une émission de télévision. Où exactement? Sous la Tour Eiffel et pas ailleurs? Dites-le nous, cher Gabriel Attal. Comme ça, on est prévenu.
Allez, on parle de violence policière, on parle de violence contre la police. Et là, en même temps, on parle d'insécurité, justement, à Grigny. Alors vous, où sont les priorités, selon vous, hein? On vous attend, 0826 300 300.
Sud Radio Berkov, dans tous ses états. Les perles du jour.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Quel plaisir de travailler pour vous. On est
ah,
heureux.
C'est vrai. Merci patron. Merci Medef. Surtout merci Medef. Oui, oui. Merci Medef. Il y avait donc sur CNews, le grand rendez-vous, je crois, il y avait Geoffroy Roux de Bézieux, qui est président du MEDEF, qui est l'actuel président du MEDEF. Et Geoffroy Roux de Bézieux a fait une révélation. Une révélation quand même que je tiens à partager avec vous, auditeurs du Sud Radio, parce que c'est une révélation sensationnelle. Écoutez ce que disait Geoffroy Roux de Bézieux.
Globalement, qu'est-ce qui se passe? Au fond, ce sont les réseaux sociaux qu'on n'arrive pas à en contrôler en démocratie. Et c'est ça la difficulté. Quand le professeur de Conflans-Sainte-Honorine est vilipendé sur les réseaux sociaux,
Samuel Paty,
qui se passe, et qui se passe,
On se dit, il faut contrôler ces réseaux sociaux. Mais en même temps, si les images qui avaient été qui ont été diffusées n'avaient pas été filmées, alors là, c'est des caméras de surveillance, si j'ai bien compris. Mais enfin,
et des images extérieures également,
oui, hein, filmées par des images extérieures, citoyens. Mais on n'aurait pas su ce qui s'est passé. Et donc, moi, je me dis que le sujet, c'est les réseaux sociaux. Et c'est quelqu'un qui vient du monde de la tech qui vous le dit. Il faut trouver un moyen de mieux contrôler les réseaux sociaux. C'est le problème numéro un.
Et voyons, Geoffroy Roux-de-Bézieux, c'est évidemment le problème numéro un, c'est pas le chômage, ce ne sont pas les conséquences économiques du Covid-19, non, tout ça, c'est des problèmes secondaires. Le problème numéro un, le patron du MEDEF qui dit ça, hein, ce sont les réseaux sociaux. Mais enfin, vous savez très très bien ce qui s'est passé avec Samuel Paty et sa décapitation, ce ne sont pas les réseaux sociaux, ce sont des gens qui ont incité la chose. Les réseaux sociaux, on le sait depuis toujours, c'est le meilleur et le pire, mais combien de choses on ne saurait pas, Geoffroy Roux-de-Bézieux, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Alors, il faut arrêter de dire, il faut contrôler. Commencez à vous occuper des problèmes majeurs, qui sont l'économie, qui sont le chômage, qui sont la précarité, qui sont tout cela. Et après, vous occuperez des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le miroir, ok ? On ne tue pas le thermomètre pour faire tomber la fièvre. On s'occupe des vrais problèmes. Formidable, quand même, quand j'entends quand même quelqu'un d'intelligent, d'assez brillant, qui dit, ah oui, le problème numéro un en France, c'est les réseaux sociaux. Hein, les bras m'en tombent.
Allez, vous aussi intervenez hein, au 0826-300-300. Est-ce que vous pensez qu'il faut mieux contrôler les réseaux sociaux ou est-ce que vous pensez que pas du tout comme André Bercoff ? Eh ben, que vous soyez auditeur ou twitto de Sud Radio, on vous attend.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états.
Deux poids, deux mesures dans ce bas monde. Deux poids, deux mesures sans qu'on les condamne. Deux poids, deux mesures dans ce bas monde.
Ouais, deux poids, deux mesures en seconde. Allez. Plus que jamais, deux poids, deux mesures. Effectivement, c'est bien de se révolter et quand il y a des policiers qui tabassent un producteur, bon, et je veux dire, c'est inadmissible, vous avez la violence légitime. Mais en même temps, quand on tabasse des policiers, quand on les blesse aussi, il faut peut-être protester. Par exemple, j'ai entendu, n'est-ce pas, les sportifs, Mbappé, Griezmann, j'ai mal à ma France. Ayana Kamoura, Mathieu Kassovitz, Benjamin Biolay, Alexandre Alamy, tout ça, indignation, etc. Très bien, indignation. Mais dites-moi, chers sportifs, chers showbiz, chers tout cela, est-ce que vous avez vraiment protesté autant quand Philippe Monguillot, chauffeur de bus, a été lynché à mort ? On vous a pas entendu. Quand Axel Daurier, aide-soignant entraîné sur 800 mètres sur le bitume, est morte. On vous a entendu ? Pas du tout. Samuel Paty, professeur décapité. Eh ben, il n'y a pas eu beaucoup de monde, hein. Soyons clairs. En revanche, Michel, le producteur de musique, alors là, tout le monde dit c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est, encore une fois, que cette indignation à géométrie variable ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais tout homme, toute femme qui est tabassé, qui est maltraité, devrait avoir votre indignation. Ça suffit, cette espèce de machin à sens unique. C'est pas possible, franchement. Plus que décevant, c'est décourageant.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états.
Oui. Alors, vous savez que Jean Castex, en son infinie sagesse, avait dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait... On est à Noël, hein. Et qu'il ne fallait pas qu'il y ait trop de monde dans les églises, parce que les églises, comme chacun sait, ce sont des clusters. Très bien. Donc, 30 personnes par église. Que ce soit une petite église de province ou une cathédrale. Non, 30 personnes. Eh bien, écoutez, heureusement qu'il y a le Conseil d'État. Eh bien, ce Conseil d'État a suspendu... Hier, le 29 novembre, a suspendu la mesure qui limitait à 30 le nombre de personnes autorisées à assister aux cérémonies religieuses. Voilà. Le juge des référés du Conseil d'État a trouvé que le caractère disproportionné de la mesure gouvernementale qui limitait à 30 le nombre de personnes, il dit aucune autre activité autorisée n'est soumise à une telle limitation fixée indépendamment de la superficie des locaux en cause. Vous voyez ce qu'on dit. Alors c'est vrai que c'était intéressant. Et ça dit beaucoup sur comment les princes qui gouvernent décident. Comment? La surface, ça compte comment? Les 8 mètres carrés par personne? Les 10 mètres carrés par personne? Qu'est-ce que c'est que ces gens et comment ils prennent des décisions? Franchement, on se pose beaucoup de questions et on se dit qu'il faudra faire désormais très attention. Et je vous promets, ici à Sud Radio, on observe tout à fait. Vous voyez, par exemple, avant, je bougeais beaucoup les bras par indignation. Maintenant, je ne bouge plus les bras. Je mets mes mains là, comme ça, près de moi. Là, je serre les bras et je me dis, est-ce que je n'occupe pas une place que je ne devrais pas occuper? Est-ce que je respire pas trop fort? Est-ce que Covid va m'atteindre? Non, monsieur Castex, je vous assure. Non, monsieur Véran. Je respecte. Je suis discipliné, monsieur Véran. Oui, monsieur Castex. Oui, monsieur Macron.
André Berkoff, on peut d'ailleurs rajouter peut-être un petit bravo puisque le prix Goncourt 2020 vient de tomber. Il a été décerné à Hervé Le Tellier pour son livre L'Anomalie de la maison d'édition Gallimard, une maison d'ailleurs qui est souvent récompensée. Et Hervé Le Tellier était le favori. Donc voilà, le favori a gagné. Je vous conseille son livre puisque c'est un beau jeu de construction et de suspense. Bon voilà, à suivre, à lire.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente...
Sud Radio Berkov dans tous ses états, le face-à-face.
Mais avant le face-à-face, juste deux précisions. Primo, Grigny, ce n'est évidemment pas Saint-Sénie, mais dans l'Essonne. Ma langue a fourché. Et puis, félicitations à Marielle Lafon, prix Renaudot 2020, avec Histoire du fils aux éditions Buchet-Chastel. Donc après le Goncourt, le Renaudot s'est pratiquement décerné en même temps. Clémence.
Et voilà, et aujourd'hui, donc, André Berkoff reçoit Rokhaya Diallo, militante antiraciste, féministe, éditorialiste, réalisatrice et auteure de cette BD, M'explique pas la vie, mec. Et c'est écrit, et c'est illustré par l'illustratrice Blachette et c'est aux éditions Marabout.
Rokhaya Diallo, alors moi, j'ai reçu ça il y a une semaine, le M'explique pas la vie, mec. Et j'ai trouvé ça très drôle, très marrant. Évidemment, quand on est un homme, on se dit, ça y est, là, on n'est pas dedans. Si, on est dedans, mais où on a l'air d'ahuri, où on a l'air de salaud revendicatif, machiste, misogyne, voulant toujours expliquer leur supériorité. Mais je dois dire que j'ai beaucoup aimé le bouquin. Il est drôle, il est plein d'humour, il est très bien dessiné, bien écrit. C'est vrai que c'est très drôle. Et puis, alors, vous n'avez pas... Toutes les situations sont là, hein, vous en avez évité aucune. Là, je crois. C'est assez drôle, non, c'est vrai. C'est très bien fait et c'est très drôle. Alors, ce que j'ai adoré, alors vous allez nous traduire, parce que, évidemment, Rokhaya Diallo, comme elle va souvent aux États-Unis, et comme maintenant on ne parle plus français, alors, il y a le mansplaining, on va vous expliquer tout ça, mais attendez, c'est pas fini, hein. Il y a le mansplaining et il y a le man interrupting,
oui.
Voilà.
Et le manspreading.
Alors, expliquez-nous d'abord pourquoi ce bouquin. Vous avez voulu aller, on sait très bien que vous êtes féministe, on ne vous présente pas, Rokhaya Diallo, mais vous avez voulu quoi dire, allez, dans des tas de situations du quotidien, il y a des choses à faire et c'est ça que vous avez voulu faire.
Absolument, vraiment le livre avait pour objet de promouvoir la prise de parole des femmes dans l'espace privé, dans l'espace public et de montrer que souvent les femmes quand elles essayaient de prendre la parole, elles étaient entravées par des hommes qui sont beaucoup plus à l'aise qu'elles. Et ce qu'on appelle le mansplaining, donc c'est la contraction en anglais de man et explaining, ça se dit en français m'explication. Nos cousins du Québec parlent de m'explication. Ouais. Et en fait, ce sont les situations où des hommes expliquent à des femmes des choses qu'elles savent mieux qu'eux. Alors, par exemple, sur un sujet dont elles sont expertes, des hommes vont tout d'un coup s'improviser expertes et leur expliquer qu'elles devraient lire tel ou tel livre, etc.
Et raconter l'anecdote.
Alors, donc c'est un terme qui a été inventé par la journaliste américaine Rebecca Solnit, qui s'est retrouvée lors d'un événement à discuter de son sujet d'expertise avec un homme qui lui a dit « Mais vous devriez lire ce livre », et qui a commencé à lui faire l'argument du livre, sauf qu'en fait, au bout de la conversation, elle lui a dit « En fait, je l'ai écrit ce livre ». Voilà, c'est une situation assez classique qu'on retrouve de manière assez régulière, mais voilà, qui montre bien à quel point parfois on ne même pas entendu comme étant experte, et quelqu'un pense qu'il a des choses plus intéressantes à nous dire que nous-mêmes avons à dire. Le man-interrupting, donc c'est la contraction de man et interrupting, donc en anglais, donc le fait que, on le voit dans les débats politiques, hein, les femmes sont interrompues 5 fois plus que les hommes, souvent, dans
quelque
soit.
Vraiment, statistiquement, on peut le dire.
Par exemple, lors du débat entre Hillary Clinton
et Trump,
donc en 2016, il a interrompu 51 ou 57 fois. Et l'inverse n'était pas forcément vrai. Et on l'a vu dernièrement avec les vice-présidents Mike Pence et Kamala Harris. Plusieurs fois, Kamala Harris a dû lui dire « I'm speaking, je suis en train de parler » pour suivre la parole.
Mais elles ne font pas la même chose. même chose, les femmes.
Pas au même niveau. Bah, par exemple, pendant les primaires de la droite, Nathalie Kosciusko-Morizet a été interrompue plus que les autres hommes qui étaient autour de la table et ça a été décompté. Et on se rend compte que dans les débats, souvent les femmes sont moins nombreuses et en fait on les écoute moins. Et c'est le cas aussi dans les réunions privées, parce que c'est vrai qu'on parle des débats, ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais dans des réunions, au travail, etc. Non seulement elles sont plus interrompues, mais parfois une idée est formulée par une femme, on ne l'écoute pas. Et quand elle est répétée par un homme, tout d'un coup on trouve que c'est formidable et c'est super intéressant. Et enfin, le troisième terme, donc, qui est aussi un néologisme récent, c'est le manspreading.
Alors, c'est
qui
quoi,
a été rebaptisé, peut-être que ça va vous aider si je, le dis, je vous dis comment il a été rebaptisé par des féministes en France, c'est le syndrome des couilles de cristal. Donc c'est cette manière dont les hommes ont l'impression d'avoir quelque chose de tellement important entre les jambes qu'ils s'étalent dans les transports en commun en écartant les genoux et en ne permettant pas aux femmes de s'asseoir et elles sont obligées d'occuper un tout petit coin. Et ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les transports en commun où en fait on arrive, il y a deux places mais il y a un homme qui en prend une et demie parce qu'il se dit que vraiment sa personne est trop importante pour permettre à une autre de se
s'asseoir. C'est vrai, alors Rokhaya Diallo, dans votre livre, vous ai surpris en flagrant délit de woman spreading. Je vais vous dire, il y a un dessin où la fille met son sac à côté et dit « Excusez-moi, c'est mon sac ». Charrie, quand même, supposer qu'il y ait quelqu'un de fatigué et de « Ah ouais, ouais, non, non, elle a mis son sac à côté, non, non, c'est mon sac ».
Oui, bon, oui, ben justement, c'est pour montrer l'absurdité, effectivement, cette planche, en fait, donc, que Blachette a dessinée, c'était vraiment pour montrer que ça peut être complètement absurde et dire « Bah oui, mon sac aussi a besoin de cette place dans les transports, mais généralement, on ne le fait pas dans la vie ».
Non, mais alors, justement, l'idée de base, c'était quoi? C'était une espèce de... Enfin, évidemment, d'humour, etc., de le faire sous forme humoristique, et de ce point de vue, c'est tout à fait réussi. Mais c'était quoi de dire, au fond, aux femmes, même dans les petits gestes, il ne s'agit pas, ce n'est pas les grandes manifestations, c'est les grandes doctrines féministes, c'est de dire, regardez, c'est dans le quotidien que ça se passe, et à chaque fois, essayer de reprendre, pas le pouvoir, mais essayer de rééquilibrer, c'est ça.
C'est ça, en fait, c'est de dire que, bah, finalement, heureusement, les féministes, les luttes féministes ont permis beaucoup d'avancer, mais on se rend compte qu'il y a des choses qui subsistent, notamment dans le quotidien, qui peuvent paraître superficielles, mais quand elles s'additionnent, en fait, empêchent les femmes, tout simplement, de s'imposer, de s'exprimer. Et donc, nous, on voulait décrypter ces situations pour montrer que finalement, le sexisme, en fait, c'est protéiforme. Et puis, donner des outils aux femmes pour s'imposer, tout simplement, pour répondre quand elles sont interrompues, pour essayer de s'affirmer quand on leur explique des choses qu'elles savent déjà très, très bien. Aussi, c'est des choses qu'on voit aussi. On a vraiment, comme vous le disiez au début, essayer d'exposer toutes les situations du quotidien, donc la salle de sport, quand on essaie de faire un créneau, quand on va essayer d'acheter des choses dans une boutique de bricolage.
Mais ça va très loin, par exemple. Oui, bonjour, ici électricien, je vous appelle suite à la coupure d'aujourd'hui. Oui, effectivement, dit la femme. Y a-t-il votre mari ou un homme dans les parages pour que je puisse l'expliquer? Franchement, vous croyez que c'est encore comme ça?
Il y a des choses qu'on nous explique parfois très très lentement, comme si on était incapable de les comprendre. Quand on est une femme, a priori, il y a des expertises qu'on nous soupçonne pas. Où on va quand on est dans une situation égalitaire, dans un rendez-vous professionnel avec un homme, il arrive quand même souvent qu'on nous prenne pour l'assistante. Je réalise des films.
Franchement, ça vous est...
Alors moi, ça m'est arrivé en fait qu'on pense que je n'étais pas la réalisatrice de mon film, mais que c'était l'homme qui tenait la caméra qui réalisait, et en fait qu'on m'ignore. Qu'on parle à la personne qui était à côté de moi, et qu'en fait on me parle, enfin limite, enfin comme si j'étais une personne décorative. C'est ça. Donc oui, que parfois les gens n'imagine pas qu'on soit au niveau de compétences qu'on est. Ça arrive assez souvent. Ça arrive dans des circonstances diverses. Mais c'est vrai qu'on a lancé par exemple sur Twitter le hashtag M'explique pas la vie, mec. Et j'invite les gens qui nous écoutent à le suivre sur Twitter. Et on a reçu un nombre de témoignages assez fascinants. Et ce qui revient le plus souvent, qui m'a beaucoup étonnée, c'est la manière dont des femmes se font expliquer leur propre corps par des hommes. C'est-à-dire que les femmes qui disent qu'elles ont mal au ventre pendant leur menstruation et des hommes qui leur disent « Non, mais je pense pas que t'es aussi mal et tu devrais prendre un Doliprane », c'est quelque chose qui est revenu, mais énormément. Je l'avais déjà vécu, mais je pensais pas que c'était aussi courant.
Oui, ça, c'est amusant, parce que les hommes, on connaît pas ça.
A priori,
c'est pas notre territoire de prédilection.
Les hommes qu'on dit, donc cisgenre, mais c'est vrai qu'a priori, ils savent pas. Mais cette manière de dire « Oui, enfin bon, faut pas exagérer, ça fait pas si mal que ça », ça arrive souvent. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent beaucoup, et souvent, on pense que c'est... c'est un peu exagéré, que ça ne justifie pas un arrêt dans le cadre du travail, etc.
Oui, j'ai beaucoup aimé ça, c'est très bien. Et puis vous parlez de ces cultures aussi, quand tu vois les femmes qui sortent en boîte ne sont pas respectables, etc. etc.
Tout à fait. Bah, la manière de dire... En fait, les femmes, soit il y a toujours une manière de dire qu'elles en font trop quand elles sont trop libres, dans leur manière de faire la fête, d'avoir une activité sexuelle, etc. C'est toujours trop ou pas assez. Il y a toujours, d'un côté comme de l'autre, des hommes qui vont dire qu'il faut qu'elles soient trop comme ça ou trop, trop de l'autre côté.
Oui, mais alors justement, Rokhaya Diallo, on n'a souvent pas été d'accord là-dessus, mais est-ce que vous ne chosifiez pas, vous et Blachette, là-dessus. Je l'explique. Vous, tous les hommes ne sont pas comme ça, vous le savez très bien. Mmh. C'est toujours le piège de la généralisation pour moi. Ça, c'est bien, mais vous savez très bien qu'il y a des hommes assez intelligents ou ouverts qui ont en tout cas intégré ça. Franchement, il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Et puis il y a des cultures aussi qui n'intègrent pas ça. S'il y a des cultures franchement spécifiques où la femme est inférieure, il faut le dire.
Moi, je dirais pas ça. En tout cas, sur le plan culturel, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que le sexisme s'exprime dans toutes les cultures d'une manière
mais pas de la même
plus
façon.
Ou moins, voilà, plus ou moins différente, ouais. Qui s'exprime différemment. Ouais. Ce que je dirais, c'est que bien sûr, c'est quelque chose qui vient toujours de dire pas tous les hommes. Mais en même temps, moi, j'ai pas envie de faire un livre pour féliciter les hommes qui se comportent bien. Je veux dire, c'est la base.
Mais alors, vous les condamnez tous, quoi.
Non, mais je me concentre sur ce qui ne va pas. Et je pense que ceux qui se comportent correctement se reconnaîtront. Et je trouve qu'il y a toujours ce truc-là de vouloir dire pas tous les hommes. Évidemment, c'est un livre qui n'a pas de vocation à être exhaustif.
Ou être universel.
Donc voilà, c'est juste montrer des situations qui sont récurrentes et dire que s'il y a des hommes qui se reconnaissent pas, ils ont qu'à offrir le livre à leurs amis qui se reconnaissent, qui reconnaissent, par exemple.
C'est bien.
Sur les cultures, je pense qu'il faut qu'on soit attentif à des choses. Peut-être qu'il y a des codes en fait qui font qu'on n'arrive pas à identifier forcément le sexisme de la même manière selon la culture et la manière dont il s'exprime.
Non, c'est vrai, mais je veux dire, il y a. Mais on en reparlera après les infos. Juste un mot quand même. Il y a ce problème qui est que est-ce qu'il n'y a pas, et vous savez très bien, chez certains féministes, c'est pas votre cas, mais on va, est-ce qu'il y a l'espèce de lutte, presque de la lutte des classes, quoi, la lutte finale. C'est-à-dire, les hommes, il faut s'en débarrasser, les hommes, ça sert à rien. Il y a ça, vous le savez.
Non, je pense pas qu'il y ait ça. Je pense qu'il y a des femmes. Honnêtement, on avait eu ce débat d'ailleurs à ce sujet-là. Oui. Je pense qu'il y a des femmes qui disent. J'ai été, par exemple, culturellement conditionnée pour ne lire que des livres d'hommes, pour ne regarder que des films d'hommes. Et aujourd'hui, en tant que féministe, je me dis, je vais rééquilibrer, je vais m'orienter vers des lectures plus de femmes, regarder des films qui sont réalisés ou produits par des femmes. Et il ne s'agit pas, je pense que déjà, aucune femme n'a le pouvoir d'éliminer les hommes de l'espace public ou social.
C'est le talent qui compte, c'est la compétence.
Bien sûr, mais je vois bien qu'il y a un déséquilibre entre les productions féminines et les productions masculines. Et ce n'est pas parce que les hommes sont plus talentueux, c'est simplement parce qu'ils arrivent à générer plus de financement. On regarde les financements des films de femmes et des films d'hommes, c'est très rare que des femmes aient autant de financements que les hommes. Et je pense qu'il y a une confiance implicite qu'on donne aux hommes, qu'on donne moins aux femmes. Et pareil, pour la publication, j'étais contente d'entendre que c'était une femme qui avait gagné le Renaudot cette année.
Ben oui.
Après, mais voilà, ça bouge. Mais ça bouge. Mais ce que je veux dire, c'est que de manière générale, on a plus de confiance, en fait. Même, on le voit dans le business, par exemple, dans la tech, on regarde la manière dont les projets qui sont montés par des femmes sont financés, les hommes ont plus de financement. Et quand les femmes sont financées, c'est parce qu'elles ont des projets en binôme avec des hommes.
On va en reparler tout de suite après les infos.
Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Oui, là on pourrait parler des Français parlent aux Françaises ou des Françaises qui parlent aux Français. D'un peu ça avec Rokhaya Diallo. Et en fait, ça va au-delà. Mais Rokhaya Diallo, je voudrais vous faire écouter quelque chose. On en avait discuté d'ailleurs un jour, mais moi, c'est vrai que ça n'a pas passé, parce que je trouve ça vraiment, du coup, même pas excessif, complètement grotesque. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Alice Coffin, donc, qui est au Conseil de Paris, qui est Europe Écologie Les Verts. Écoutez ce qu'elle disait il y a quelques semaines dans une télé.
Et vous écrivez quand même, je ne sais pas si je mourrais sans avoir blessé un homme.
Mais précisément, c'est une interrogation, mais qui est pas très nouvelle dans le féminisme.
Vous n'êtes pas toute seule à dire ça.
Mais non, mais comment ça se fait? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui joue en fait dans ces exactions-là quotidiennes, dans la façon dont on se fait trucider, violer, tuer. Enfin, c'est ça quoi, le quotidien. Qu'est-ce qui joue là-dedans que en fait en face, ça répond pas? Ça ne riposte pas. Dans quel genre de conflit, depuis des siècles et des siècles et des siècles, une même population se ferait systématiquement attaquer par une même autre population et jamais ne prendrait les armes, jamais ne répondrait.
Alors quand même, ça c'est d'ailleurs c'est intéressant parce que elle a une position de guerre. Alors là, c'est la guerre vraiment, c'est la ni des races ni des classes, c'est la guerre des sexes. Et vous savez, elle a dit moi je me marierai jamais parce que je ne veux pas être violée ni tabassée, etc.
Elle l'a pas dit comme ça. Elle a dit que le fait de ne pas être mariée à un homme la préserve de potentielles violences qui factuellement
Rokhaya,
c'est vrai.
On ne peut pas dire ça parce que ça justifie. Après vous vous attaquez au racisme systémique. C'est pas du racisme systémique ça.
Non, c'est un constat.
Les hommes hommes, mais tous les hommes, regardez, guerre des classes, oui, ça fait des siècles et des siècles de violence, d'accord, enfin, je vais dire, généraliser comme ça, quand même.
Bah, le fait est que, concrètement, il y a un viol toutes les 7 minutes, et après, moi, ce qu'elle disait tout à l'heure, ça me rappelle une anecdote très dur, hein, qu'a raconté Virginie Despentes dans son livre King Kong Theory. Elle raconte en fait le viol qu'elle a subi, et lors de ce viol, en fait, elle avait un couteau sur elle. Et que pendant toute l'agression qu'elle a subie, la seule crainte qu'elle avait, c'est que son agresseur trouve le couteau et s'en prenne à elle. Il n'y a pas une seconde où elle a imaginé à prendre le couteau pour s'en prendre à la personne qui l'agressait. Et c'est ça qu'elle dit en fait, Alice Coffin, c'est qu'elle est étonnée que finalement, il n'y ait pas de riposte plus violente de la part de femmes qui subissent des agressions oui, quand même assez importantes.
Oui, vous savez, cette Jacqueline Sauvage.
Oui, bon. Mais c'est très rare. Oui, je veux dire, ça a quand même, enfin, de manière générale, enfin, quand on se dit qu'il y a un viol toutes les 7 minutes, qu'il y a une femme qui meurt tous les 2 jours et demi sous les coups d'un homme, et que finalement il y a très peu d'hommes qui font face à des conséquences physiques par rapport à ce qu'ils vivent, je pense que les femmes sont quand même très pacifiques.
Non mais attendez, elles sont très pacifiques, on est d'accord, mais encore une fois, ce n'est pas ça le problème. Le problème qui est posé, c'est qu'on a l'impression que potentiellement, pour Alice Coffin, tous les hommes sont des violeurs en puissance, d'ailleurs c'est ce que disaient d'autres aussi, d'autres ultra-féministes, tous les hommes, tous, je dis bien, parce que quand vous parlez, Alice Coffin parle et puis d'autres, on a l'impression que quand ils disent les hommes, vous savez, quand vous dites les juifs, les noirs, les arabes, moi c'est ça qui me
choque. Oui, sauf que les juifs ont été victimes d'une oppression d'État, ils ont été victimes d'un génocide, donc du coup c'est vrai que c'est les hommes n'ont jamais été victimes d'une oppression systémique, et du coup moi ce qui m'intéresse quand on dit ça, c'est de dire pourquoi on a absolument ce besoin de dire que tous les hommes ne sont pas comme ça, alors que les hommes sont nombreux à être comme ça. Moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment se fait-il qu'il y ait autant...
La majorité, à votre avis, franchement.
Je ne suis pas capable de chiffrer, mais il y en a quand même beaucoup. Je veux dire, quand il y a une femme qui meurt tous les 2 jours et demi, ça fait trop, en fait. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de passer du temps à dédouaner les hommes qui se comportent correctement, mais plutôt de passer du temps à dire comment se fait-il qu'il y ait autant d'hommes, en fait, qui considèrent que le corps des femmes leur appartient au point de les violenter, de les briser.
Et là, on va au-delà du livre, mais c'est intéressant. Le problème, c'est que non seulement vous ne les dédouanez pas, mais vous dédouanez les autres. Quand vous dites, et franchement pas à vous, mais tous, quand vous dites, voilà, les hommes, potentiellement, voilà ce qui se passe, etc. Donc, le type, il dit, bah écoutez, tout le monde fait ça, donc moi aussi, je vais faire ça.
Bah non, au contraire.
Ça ne va pas du tout. Le violeur potentiel, ou le type qui dit, ouais, vous êtes toutes des putes, ou des chiennes, ou etc., il va dire, ouais, mais tous les hommes sont comme ça, alors pourquoi vous allez prendre à moi?
Bah, sauf s'il y a vraiment un discours qui dit qu'il faut que ça cesse, et qu'il y a une question, une question qui est liée à l'éducation, il y a aussi des numéros d'écoute qui permettent, par exemple, aux hommes potentiellement violents, peut-être d'échanger par rapport à leur violence. Enfin, moi, je pense que le fait de le dire, ça permet de dire que... Parce qu'en fait, ce que disent les féministes souvent, enfin, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les femmes connaissent des femmes qui sont fait violer, mais aucun homme ne connaît de violeur. Et à un moment donné, c'est pas possible. C'est-à-dire que moi, je veux dire, parmi mes amis, la majorité de mes amis ont subi des agressions sexuelles. Comment se fait-il que... La majorité. Non, ouais. C'est extrêmement commun dans l'enfance. Les agressions sexuelle, ça va du viol à l'agression sexuelle dans le métro, moi-même dans le métro, j'ai été touchée contre mon gré, quoi, et lorsque j'étais adolescente. Donc on a toutes subi ça à un moment de notre vie, mais personne ne connaît aucun homme qui fait ça. Je veux dire, et à un moment donné, il y a des gens qui sont dans le déni, c'est pas possible. C'est pas possible que nous, les femmes, nous soyons autant documentées.
Des gens qui se comportent comme des porcs.
Ou ils le disent pas, ou on ferme les yeux, enfin, il y en a beaucoup. En tout cas, c'est pas le même homme qui s'en prend à toutes les femmes. C'est qu'il y en a quand même suffisamment partout pour que ce soit une expérience partagée. Donc, je pense qu'il faut qu'on prenne tous nos responsabilités et qu'on regarde autour de nous qui agit de cette manière-là et comment on peut faire en sorte que ça cesse.
C'est vrai, mais simplement, Rokhaya, je le dis, dans les responsabilités, je pense que la généralisation à tous les hommes me paraît irresponsable.
Ce que je pense, c'est vraiment qu'il ne faut pas minorer ça. Et que si les hommes sont... Enfin, moi, je trouve que c'est bizarre, en fait, d'avoir autant à cœur de dire oui, c'est pas tous les hommes, etc., quand c'est aussi grave, en fait.
Mais parce que c'est pas vrai.
Bien sûr, il y a des hommes bien... Mais heureusement.
Pour revenir au quotidien, pour pas rester justement dans la théorie, etc., mon corps m'appartient. Non, mais ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, là. C'est vrai. Et j'ai beaucoup aimé ça. Après l'amour, là. Ça t'a plu autant que ça. T'étais origine, ma puce, la première fois. Vous voulez dire que, oui, beaucoup d'hommes disent, oui, si tu jouis pas,
c'est parce que tu connais pas bien ton corps. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette manière de pas reconnaître son incompétence. Je veux dire, c'est pas grave, en fait. Ça arrive que parfois, on sache pas comment s'y prendre. Et en fait, de renvoyer la faute vers la femme en disant, mais moi, d'habitude, ça se passe comme ça. Donc, c'est que toi, tu ne connais pas bien ton corps, alors que généralement on est la meilleure experte de son propre corps. Donc c'est encore une fois, même dans la sexualité, Et en plus, la sexualité féminine est très très peu connue. Hein. Le clitoris a été modélisé.
Le continent noir, comme on l'appelait.
Bah oui, enfin, on l'appelait de manière un petit peu brumeuse, mais le clitoris en fait a été modélisé en 3D dans la dernière décennie. Donc ça fait pas longtemps en fait. C'est-à-dire qu'on s'intéressait même pas à la manière dont le corps féminin a été constitué. Du coup, c'est vrai que cette expertise-là n'est pas si développée que ça, et qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont dans le déni par rapport au fait que des fois ils savent pas grand-chose et qu'il faut aussi avoir l'humilité de dire qu'on peut apprendre.
C'est vrai. Quoi. Ça c'est évident. Et effectivement, d'ailleurs, et ça, c'est vrai que c'est ancestral aussi. Il y a des tas de choses, il y a des siècles et des siècles.
Exactement, voire des millénaires, effectivement.
Mais alors, dites-moi, vous allez jusqu'à la fashionista. Alors, franchement, alors, vous n'épargnez rien. Tout... Alors, ça va, la mode, oui, c'est-à-dire que vous dites... mais alors, on n'a plus le droit de dire « Ah, t'as une robe peut-être qui n'est pas ça, parce que sous prétexte que ma cravate n'est pas bien ».
Mais non, mais nous, on critique pas les vêtements. C'est-à-dire que les femmes politiques et leurs vêtements, c'est, moi, je me souviens quand Cécile Duflot a été chahutée à l'Assemblée nationale parce que elle avait une robe à fleurs. Ouais. Mais c'était disproportionné. On se dit, mais attends, il y a une ministre qui vient énoncer un propos politique et tout d'un coup il y a des espèces de cris qui surgissent de toutes parts parce qu'elle avait une robe à fleurs et parce qu'un jour il faisait c'est ça, il y a une autre femme qui a été effectivement victime de caquettement parce qu'elle s'exprimait, mais cette question de la tenue des femmes c'est souvent commenté hein. Souvent quand c'est trop coloré, alors quand c'est trop luxueux comme Rachida Dati c'est too much, quand ça l'est pas assez c'est un manque de classe, quand on a l'afro comme Sibeth Diagne c'est ça va pas, enfin il y a toujours comme ça, alors que il y a plein d'hommes politiques qui ne sont absolument pas élégants sur lesquels on ne dit rien parce qu'on pense que ce qui est important, c'est pas tant leur qualité en termes de mode.
On dit, vous savez, les beaucoup gens moins. Disent sur les beaucoup réseaux moins. Sociaux, ils y vont. Hein, je veux dire.
Beaucoup moins que pour les femmes. Hein. Les femmes, quand elles n'ont pas le droit à l'erreur au niveau des vêtements. Hein.
Non, mais oui, enfin, c'est vrai. Mais alors, dites-moi, pour vous, Margaret Thatcher, c'est un homme ou une femme?
C'est une femme politique qui montre bien que la politique n'est pas genrée. C'est une femme politique extrêmement dure et conservatrice.
Voilà.
Mais qui montre
mais
que
c'est
justement.
Femme, justement.
C'est une, absolument, oui. C'est une femme politique.
Elle a le droit d'avoir des idées conservatrices.
Ah bah oui, il y en a beaucoup des femmes conservatrices. Ouais. Hein, et on a vu des femmes diriger des États de manière austère, dure. Elle a été très dure avec le mouvement indépendantiste irlandais, avec les ouvriers dans la guerre des Malouines. Enfin, c'est une
mais
femme qui a été particulièrement
brutale. D'accord.
De manière indéniable. Mais ça montre bien que voilà, la politique, c'est pas une question de genre.
Et alors oui, mais est-ce que la politique, est-ce que le reste n'est pas non plus question de genre? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, et vous le savez très bien, des executives women dans le business, je sais qu'il y en a moins que des hommes, mais elles se comportent quelquefois aussi durement et même beaucoup plus durement que certains hommes.
Bah c'est parce que aussi il y a la manière dont les affaires ont été organisées survalorise aussi une forme de dureté, c'est-à-dire qu'on peut aussi entendre qu'il ne soit pas nécessaire de faire preuve de brutalité pour faire des affaires, pour faire du business. Après c'est vrai que ce qui est promu dans ce monde-là, c'est la brutalité, c'est une forme de fermeté.
Il n'y a pas une façon féminine de faire du business, c'est ça que je veux dire.
Je ne pense pas. Mais après, les hommes et les femmes sont élevés avec des injonctions différentes. C'est-à-dire que dès l'enfance, on voit qu'un petit garçon qui pleure, on ne lui dit pas la même chose qu'à une fille qui pleure. Le petit garçon, généralement, on lui dit d'arrêter parce que voilà, la petite fille, on va la consoler différemment. Et de la même manière, il y a des tests qui ont été faits avec des bébés. Des bébés qui étaient identiques en fait, et selon qu'on disait aux gens que c'était des petits garçons ou des petites filles, les pleurs n'étaient pas interprétés de la même manière. Et on voyait bien que chez les petites filles, c'était considéré comme un caprice, alors que chez les garçons, c'est la colère, c'est une espèce d'énergie qui est complètement vue différemment, alors que c'était les mêmes pleurs. Ouais. Et donc, je pense que dès l'enfance, on va dire à une petite fille facilement, t'es jolie, t'es bien habillée, et que du coup, elle investit ça comme étant très important.
C'est terrifiant, même le lacrymal est genré maintenant.
Absolument.
Vous imaginez
ce Et oui.
On se retrouve tout de suite après cette petite pause et avec les auditeurs.
Voilà, n'oubliez pas ce numéro de téléphone, hein, 0826-300-300. Justement, les auditrices de Sud Radio, venez intervenir et venez nous dire, vous, si vous trouvez qu'il est difficile de trouver sa place dans la société actuelle, venez parler de féminisme et puis les auditeurs, venez nous dire vous aussi ce que vous en pensez. On vous attend tous.
Absolument,
vous pouvez aussi revenir sur les autres
sujets,
les manifestations pour les libertés, les violences policières et les violences contre la police. On vous attend, à tout de suite.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente
ici Sud Radio. Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
Et André Berkoff est toujours dans tous ses états avec son invité Rokhaya Diallo, militante antiraciste, féministe, éditorialiste et qui nous présente cette bande dessinée M'explique pas la vie, mec, et c'est aux éditions Marabout.
Alors justement, Rokhaya Diallo, pendant qu'on parlait, évidemment, les tweets ont commencé à arriver et tout, et Malpensant m'a envoyé un tweet, enfin, il dit ceci: André Berkoff reçoit Rokhaya Diallo sur Sud Radio. Est-elle capable de faire une phrase sans le mot femme, une féministe qui passe son temps à se victimiser et n'hésite pas à user de préjugés qui l'offusqueraient s'il la visait? Tout est bon pour taper sur le mâle.
Alors, je parle de femme aujourd'hui parce que c'est l'objet de ma bande dessinée, mais je suis tout à fait capable de faire des phrases sans le mot femme. Je l'invite d'ailleurs à consulter mes autres livres, mes documentaires. Les sujets que j'aborde sont variés. Je pense pas qu'il s'agisse de victimisation, il s'agit simplement d'un constat, c'est un travail, parce que c'est vrai que les gens aiment bien réagir comme ça un petit peu à chaud, mais c'est un travail qu'on a fait avec Blachette, de documentation... avec des chiffres, avec des notions qu'on a étudiées. Donc, c'est pas juste comme ça une idée.
Oui, c'est pas une réaction hormonale.
Alors là, ça, c'est du mansplaining.
Bien sûr. Ah ben, non, je pouvais pas le rater, ça.
Ah ben là, vous ne l'avez pas raté, je vous le confirme. Non, c'est une analyse. C'est une analyse qui est effectivement issue d'une expérience personnelle, hein, de l'une et de l'autre. Mais c'est intéressant aussi parce qu'on n'a pas le même âge.
Pas seulement, vous avez demandé un tas de filles ou de femmes.
Absolument. Autour de nous, c'est des choses qu'on a constatées. Mais déjà, c'était intéressant entre Blachette et moi, on n'a pas le même âge. Moi, j'ai 42 ans, Blachette, elle a 20aine. Donc, on n'est pas de la même génération. Et d'accord, c'est intéressant de voir que d'une génération à l'autre, on constate des choses quand même assez similaires. Et puis après, c'est des choses qu'on a observées dans les médias qui nous ont été rapportées également. D'accord. Et après, évidemment, des choses qui ont été étudiées.
Bien sûr. Clémence ?
Allez, ça vous fait réagir en tout cas tout ça. Et vous nous avez appelé au 0826 300 300. On donne tout de suite la parole à Firat qui nous appelle de Paris. Bonjour Firat.
Bonjour, oui. Bonjour tout le monde.
Oui, bonjour Firat. Bonjour.
Merci de me donner la parole. C'est un plaisir d'être sur votre radio. Ouais, je voulais parler des violences policières. J'étais à la manif Place de la République.
Oui.
Alors déjà, c'était full, c'était blindé. J'ai vu qu'on disait que c'était 45 000 personnes dans les journaux, ce qui est faux.
C'était beaucoup plus, jusqu'à... selon vous.
Ah oui, c'était rempli jusqu'à Bastille. Hein. On n'arrivait pas à peine à marcher. Hein.
D'accord.
Donc, et puis on s'est aperçu d'une violence qui a commencé. Près un certain groupe de policiers. Mmh. Donc c'était des jeunes qui se revendiquaient Antifa, qui ont commencé à barricader, à faire un barrage avec tous les objets qu'ils trouvaient autour d'eux, à renverser une caravane, à abîmer du matériel. J'ai pu avancer et voir des casseurs abîmer les restaurants. Enfin, c'est incroyable, en sachant que... Et tous les restaurateurs, en ce moment, c'est très compliqué pour eux.
Ils venaient d'ouvrir. Ouais.
Voilà, c'est ça. Vraiment, ces gens-là n'ont rien à faire dans les manifestations. Ils créent un désordre et une mauvaise image de ce que le message, ce que les manifestants ont voulaient passer comme message, quoi, à travers leur nombre. Voilà.
Oui, non, mais ça, il y a un vrai problème, et on l'a vu, il y a une revendication légitime par rapport à la loi sécurité globale, et puis il y a des gens, mais c'est pas nouveau, hein, depuis les Gilets jaunes, on le sait, qui arrivent, et je le dis, et d'ailleurs, je suis pas le seul, loin de là, et qu'on laisse complaisamment rentrer pour casser. D'autres, Clémence ?
Oui, bien sûr, on va donner la parole à Florence, qui nous appelle de Guétari. Bonjour Florence.
Oui, Florence, bonjour.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Bon, je sais que j'ai pas trop le temps. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour à votre invité. Donc, je voulais parler, moi, par rapport... vous m'entendez ou vous voulez...
Très bien. On vous entend très bien, Florence. Bon, allez-y.
Évidemment. Voilà, alors, les violences policières... comme on dit, il n'y a pas de mauvais chevaux, il n'y a que des mauvais cavaliers. Moi, je ne suis pas pour cette violence, évidemment. Par contre, il y a eu tellement une violence énorme depuis 2 ans par rapport aux Gilets jaunes, qu'il y a une haine et une colère qui monte partout chez les gens des campagnes et d'ailleurs.
Ouais.
Hein, comme disait votre invité.
On l'a vu à Cahors, vous avez vu.
Dans les campagnes, c'est vrai qu'on a moins la colère parce qu'on a de la chance d'être... Mais on sent qu'il y a une tension. Et comme je disais à un de vos invités il y a très longtemps, pardonnez-moi, mais il y a une milice. Pour moi, les policiers sont en train de faire une milice d'État plus que pour nous protéger, nous. Donc ça, c'est un autre sujet, mais il n'empêche que... Voilà. Et après, évidemment, ils sont énervés, mais je ne cautionne pas du tout la violence qui a été faite aux producteurs de musique. Donc bon, là-dessus, il faut changer de gouvernement, c'est sûr, c'est clair. Après, je voulais parler, je suis contente que vous invitiez une femme, parce que...
Ça m'arrive, hein, ça m'arrive, je vous assure. Plus, voilà. plus on vend que mon tour.
Et c'est dommage que vous n'ayez pas Monsieur Julien Rochedi avec Madame Rokeya Diallo, parce
Monsieur
que justement...
Qui
Julien Rochedi. Il était président du FNJ.
Non mais vous avez parlez-moi de oui de
voilà. Donc,
du sujet.
Moi je suis tout à fait d'accord avec elle. Il y a un problème énorme avec avec le patriarcat chrétien, le patriarcat musulman aussi. Donc ça, il faut en parler parce que bon cette immigration aussi qu'on a notamment donc avec un islamisme et autres. Hein, en Afrique il y a du matriarcat, mais le patriarcat est dominant. Et c'est justement ici pourquoi moi, en tant que femme, je protège le côté libertaire de la France, parce que les femmes en prennent plein la gueule. Il y a beaucoup de femmes, quand on regarde les faits divers, où les policiers ne prennent même pas leur plainte, parce que oh, mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Donc évidemment, il ne faut pas en faire tout un truc, parce qu'heureusement, moi j'aime les hommes aussi, mais il faut que les hommes se réveillent et aussi nous protègent, je pense. Et suis d'accord avec Madame Diallo quand même, qu'il faut, il faut un peu laisser respirer les femmes et leur donner un peu de tendresse qu'on mérite, quoi. Voilà.
C'est clair. Rokeya, sur le patriarcat.
Oh, je suis complètement d'accord. Je pense que le patriarcat est un phénomène global, qu'il faut vraiment agir partout en fait où il prospère et qu'il est malheureusement il a lieu sur tous les continents et qu'il y a vraiment un phénomène de déconstruction à opérer. Et vraiment pour le coup, je pense que c'est important de s'y opposer, quels que soient les auteurs, et essayer de le lire avec la même exigence. Et je pense que vraiment moi je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a encore des combats menés par rapport à la manière dont sont formées les personnes qui reçoivent les plaintes des femmes. Il y a toujours cette question de la crédibilité des femmes qui est extrêmement difficile et parfois les femmes sont... Il y a vraiment beaucoup de maladresses qui font que les femmes, bah, après des situations d'agression, se trouvent face à des gens qui ne sont pas formés pour recevoir cette parole et pour les mettre à l'aise parce qu'elles ont été violentées physiquement et psychologiquement.
Bien sûr.
Alors, on va donner la parole à Marie-Claire. Elle est là, Marie-Claire ?
Oui.
Bonjour Marie-Claire.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, déjà, je voudrais m'exprimer sur les violences policières, mais avant, je voudrais dire quelque chose à Rokeya Diallo. Je voudrais lui dire, je comprends pas pourquoi elle dit, les hommes, quand ils disent, le corps de la femme m'appartient. Attendez, je pense pas que quand un homme va taper sur sa femme, il tape d'abord parce qu'il pense dans sa tête que le corps de la femme lui appartient, et il lui tape dessus parce qu'il est en colère. Il a pas cette pensée-là. Je comprends pas. Moi, je pense pas qu'un homme, il tape sur une femme parce que dans un premier temps il se dit son corps m'appartient. Ça, je trouve ça ridicule, voyez-vous.
Alors je peux vous répondre là-dessus.
Oui.
Souvent les femmes qui sont violentées, ce sont des femmes qui sont violentées par leur conjoint, par leur ex-conjoint, notamment dans des situations où en fait elles veulent rompre. Et souvent, les brutalités, ça arrive très très souvent que les brutalités qui occasionnent la mort soient le fait d'hommes qui refusent en fait que les femmes s'en aillent, quittent le couple, quittent le domicile conjugal. Et là, il y a vraiment dans cette démarche de violence extrême qui peut conduire à la mort, l'idée que la femme ne doit pas avoir d'autonomie et n'a pas le droit de quitter le giron familial. Et donc, ça ne veut pas dire que l'homme concrètement se dise de manière très claire son corps m'appartient, mais se dit j'ai le droit de disposer de ce corps et ce corps-là doit agir selon ce que j'ai décidé. Et c'est en ça que ça signifie. Quand on dit qu'un corps nous appartient, ça veut dire que le corps de quelqu'un, on s'auto autorise en fait à le brutaliser et que donc ce corps n'est pas possédé par la personne mais par nous puisqu'on on pense qu'on a le droit de le brutaliser.
Non, je suis pas d'accord là-dessus. Je pense pas qu'un homme, c'est la jalousie qui fait. Je suis d'accord avec vous quand vous dites, il lui tape dessus parce qu'il veut pas qu'elle parte. Ok, mais il a pas le temps de réfléchir que c'est parce qu'elle a pas le droit d'être autonome.
C'est ce qu'on appelle l'inconscient, madame. C'est pas forcément une réflexion, c'est un inconscient.
En fait, je crois oui, vous n'êtes pas en désaccord profond là-dessus, mais ça dépend justement. C'est une appropriation qui n'est pas une appropriation physique, mais une appropriation psychique, je dirais. A tout de suite, on se retrouve après ceci.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et les Français parlent aux Français, et les Françaises parlent aux Françaises. Et tout de suite, on retrouve André Berkoff et son invité, Rokeya Diallo, qui présente sa bande dessinée « M'explique pas la vie, mec », et c'est aux éditions Marabout. On donne la parole à Cédric Delérault, qui a composé lui aussi le 0826 300 300. Bonjour Cédric.
Oui, bonjour Cédric.
Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Madame Diallo.
Bonjour.
Moi, je venais pour éviter de faire un amalgame sur tout ce qui est féminin et masculin. Je suis un très heureux d'aimer les femmes, mais il y a quand même un truc qui est très très fort, c'est qu'en fait une femme en fait a la possibilité mentale de faire briller un homme. Ça faut pas l'oublier. Après, on prône le côté, comment on appelle ça j'arriverai pas à trouver le mot. Sexiste, ouais. C'est vrai qu'on est dans une époque où en fait il y a des pro-féministes qui s'appellent notamment Nicki Minaj, à qui on voit souvent plus ou moins dénudée, Ariana Grande qu'on voit plus ou moins dénudée, et elles se prônent féministes à fond les gamelles. On ne sait plus trop où on va aujourd'hui. Et pour certaines informations, j'ai eu des personnes autour de moi qui ont été plus ou moins poussées à bout, et dont la femme a fait vriller l'homme, dont la femme en fait a fait la pire misère parce qu'elle avait juré de faire la misère si son compagnon l'a quittée, et ça s'est produit, et elle lui a fait les pires misères possibles et imaginables. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, tu sais que il y a des fois j'ai envie de la tuer. Et c'est dur de dire ça. Bon, après, les deux personnes se sont complètement séparées. Elle est partie à l'étranger, lui, il est resté en France et tout ça. Mais ça me fait penser un peu à un sketch qu'il y a eu une fois où le gars, en fait, il en a marre de sa femme et puis elle lui fait la misère pas possible. Et puis d'un seul coup, on entend dans ce sketch le monsieur qui fait « Et puis vous vous retrouvez dans la forêt de Rambouillet, en pleine nuit, à creuser un trou. » C'est odieux, hein. Mais au fond, à un moment donné, on se dit, je suis très respectueux des femmes, mais je ne comprends pas pourquoi, en fait, on parle souvent, c'est vrai, on parle souvent des femmes qui sont battues et tout ça, mais on a oublié, notamment, il y a eu un procès, je crois, il y a 5 ans, d'une femme qui a violenté un homme, qui l'a séquestré, qui l'a brûlé au corps, et elle a pris moins qu'un homme s'il avait fait ça. Donc j'aimerais un petit peu, Madame Diallo, savoir ce que vous pensez là-dessus, parce que franchement, c'est un petit peu étrange quand même.
Oui, c'est intéressant, hein, Rokhaya, parce qu'il y a aussi, enfin, il faut entendre ce truc des hommes, parce qu'il y a aussi les femmes qui poussent les hommes à bout, ça existe.
Alors, que les femmes puissent être désagréables, qu'elles les poussent à bout, ça ne justifie jamais aucune violence. C'est-à-dire que je pense que la réponse, quand il y a un conflit, elle doit être de même nature. Donc c'est vrai que répondre à quelqu'un qui est agaçant, qui est pénible, qui rend la rupture difficile par de la violence physique, pour moi c'est incompréhensible et c'est injustifiable. Après, c'est vrai que parfois ce sont des femmes qui commettent des meurtres ou des brutalités sur les hommes. Mais de manière systémique, si on doit regarder l'ensemble des situations, ça arrive plus souvent dans l'autre cas. Les femmes sont beaucoup moins impliquées, de manière générale, de toutes les façons, dans des actions brutales. Dans la société, même dans les accidents de la route, les femmes sont moins impliquées parce que la socialisation des hommes et des femmes fait que les femmes ont des comportements, de manière générale, moins violents. Pour en revenir sur ce que vous disiez sur Nicki Minaj et Ariana Grande, alors moi j'aime beaucoup Nicki Minaj, j'aime bien ce que fait Ariana Grande. Je trouve qu'au contraire, des femmes qui assument leur sexualité, mais de leur propre fait, je trouve que c'est fort. Nicki Minaj, Cardi B ou Meg Thee Stallion, je trouve que ce qu'elles font avec leur corps, qu'elles le décident, qu'elles décident de s'imposer en étant des femmes puissantes, mais en disposant de leur corps comme elles le veulent, pour moi c'est aussi une forme de féminisme. Justement, pour moi, dans le féminisme, on peut choisir de se couvrir, se découvrir, mais l'important c'est qu'on choisisse soi et qu'on s'impose comme on le veut, quelle que soit la forme de son corps.
C'est ça, mais pas que féministe hostile. Oui, allez-y.
Ça pose quand même un problème dans le sens où, en fait, on dit à nos enfants, moi j'ai une petite fille qui va avoir 2 ans, elle va être amenée à regarder des femmes comme ça, et elle va s'identifier à ces gens-là. Et qu'est-ce qu'on va dire après si un garçon agresse une fille parce que la fille est plus ou moins dénudée? L'homme, de par base, vous savez qu'on va parler animal, hein, vraiment, hein, pas comparer un homme avec un chien, hein, ou une femme avec une chienne.
J'espère
mais
pas,
ouais. quand un chien rencontre une chienne et que la chienne est en chaleur, qu'il fait, il se tourne autour, mais un homme dans le fond lui-même, il est comme ça aussi, il a quand même des hormones qui fonctionnent, il a des yeux, il voit une fille dénudée, il la voit de telle façon. Qu'est-ce que vous voulez qu'il pense?
Mais il va pas spécialement la violer, vous êtes d'accord?
Il y a une différence
non,
entre...
Non, je l'entends, bien sûr, ouais. Et je suis pas pour, mais il y a quand même des personnes qui ont un cerveau ralenti, on va
dire. Alors, moi ce que je trouve intéressant, c'est que les femmes aussi ont des hormones et éprouvent du désir. Enfin, nous, on n'agresse pas les hommes quand on les trouve désirables, on sait se tenir.
Ben, j'ai rarement
on
vu sait... un homme porter plainte parce qu'une femme l'avait violé.
Oui, parce qu'on a appris à se tenir. Mais ça nous empêche pas
pas d'éprouver du désir, simplement quand on en éprouve, on sait se tenir. Et je pense que le fait qu'une femme, même si une femme se promène dans la rue entièrement nue, ça ne justifiera jamais le fait qu'un homme la touche ou l'approche. C'est-à-dire que pour moi, ce sont deux choses différentes. Vous parliez des petites filles, moi je pense que ce sont les petits garçons qu'il faut éduquer justement pour dire que quelle que soit la tenue que porte une femme, c'est pas un message qui signifie un consentement. Et il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quand même des hommes qui sont homosexuels et bizarrement, ils vont jamais s'en prendre physiquement aux hommes, ils vont jamais leur mettre des mains aux fesses dans le métro, etc. Ah, donc ça veut bien dire que
ça arrive rarement.
C'est beaucoup plus rare.
Dans le métro, c'est rare
que des hommes mettent des mains aux fesses à d'autres hommes au hasard.
Complètement. J'habitais dans le premier arrondissement à l'époque à Paris, effectivement, je n'ai pas.
Ça vous est déjà arrivé qu'un homme
non, mais dans la rue, Rocaille.
Qui mettent des mains aux fesses à des hommes au hasard.
Franchement,
c'est très rare.
Moi, j'ai vu.
Donc c'est très très rare. C'est très très rare parce qu'on sait qu'il y a potentiellement une rétorsion physique.
La différence c'est qu'on le dit pas.
Je pense que c'est très rare. Franchement que des hommes n'identifient, ne sachent pas si les hommes
sont. Une main qui est posée aux fesses, faut savoir quelle est la main.
Moi je pense que c'est rare.
On va pas taper sur la première personne parce qu'en fait on a des soupçons sur telle personne. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué aussi.
En tout cas ce que je constate c'est que on peut complètement résister à une pulsion sexuelle et qu'on n'est pas obligé de toucher une femme parce qu'elle est habillée de manière courte.
Et il faut apprendre à résister, c'est la chose la plus importante.
Je pense que là c'est l'éducation.
Absolument.
Allez, on retourne au standard. En tout cas, ça vous fait beaucoup discuter, c'est très bien. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On donne la parole à Robin qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Robin.
Oui, bonjour Robin.
Bonjour Monsieur Berkoff et bonjour à votre invité. Merci pour tout ce que vous faites au niveau de la liberté d'expression et de l'information en général. Si on vous le dit tout le temps, ça fait quand même du bien qu'il y ait une ou deux radios en France qui soit pas
merci,
totalement...
Merci, merci, mais écoutez, ça me touche et vraiment.
On va dire. Je voulais revenir rapidement sur la petite querelle de l'auditeur et juste précédent, quand Roca disait une femme pourrait se balader nue, non, enfin déjà...
Non, ni un homme d'ailleurs, un homme non plus.
Mais c'est de la théorie pardonnez-moi.
Non, mais c'est de la théorie, mais c'est déjà pas voir le rapport par rapport à la sexualité des hommes et des femmes, qui est complètement différent. Un homme doit chercher du sexe pour en avoir, alors qu'une femme n'a que, on va dire, à donner son numéro pour en avoir. Donc on n'est pas du tout sur la même planète, mais c'est pas grave, hein. On est différents. Parenthèse fermée, je voulais dire que je pense que le type de personnes qui passent leur temps à diviser les êtres humains entre eux, en fait nuisent à l'humanité. Ils, sous leur apparence d'égalité, etc., ils passent leur temps à diviser les combats afin qu'en fait le petit peuple se tire dans les pattes entre lui et lui-même. Et en fait,
vous voulez dire que si on divise les hommes et les femmes, on ne s'occupe pas des problèmes les plus importants, c'est ça?
Voilà,
économiques,
exactement.
sociaux et autres, c'est ça que vous dites?
Et ça m'a pas du tout étonné que madame se présente comme antiraciste, féministe, et puis bon, je pense qu'elle passera à autre chose quand ce sera la mode. Peut-être qu'après,
ça fait 20 ans que je suis féministe, monsieur. Ça fait 20 ans que je suis féministe.
Oui, mais alors...
C'était pas à la mode il y a 20 ans.
L'antiracisme, c'est à la mode depuis 35 ans, 40 ans. Est-ce que le racisme a diminué? Au contraire, pas du tout. Il n'y a aucun lien entre les associations antiracistes et le racisme. Donc, en fait, pour moi, je voulais juste dire que pour moi, tout ça, c'est une arnaque, que la plupart des hommes et des femmes s'entendent bien, et que, en fait, on passe beaucoup de temps dans les médias à monter les gens les uns contre les autres pour qu'en fait ils perdent leur temps pour des combats sociétaux et pas du tout pour des combats sociaux. Donc voilà, je voulais dire à cette femme que j'ai compris que c'était une arnaque, j'espère que d'autres l'ont compris, et à titre personnel, je connais pas mal de femmes qui en ont vraiment assez des féministes hystériques. Et
je suis hystérique, monsieur ? Je suis hystérique, c'est
non, mais je vais pas parler de vous.
Ah, je sais pas, je vous pose la question. Vous savez d'où vient le mot hystérique?
Oui, ça vient de l'utérus, etc.
Voilà. Et pourquoi ça désigne les femmes particulièrement, selon vous?
Mais c'est pas la question, moi je vous parlais...
Non, mais je crois qu'il faut revenir à l'essentiel.
Alors, je vais me permettre de vous répondre. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que bon, on a un homme. On parlait tout à l'heure de femmes qui se font expliquer leur sujet d'expertise. Donc, je viens de lui dire que j'étais féministe depuis 20 ans. Il me dit que c'est un sujet secondaire, le féminisme. Moi, je pense que quand on vit dans un pays où il y a un viol toutes les 7 minutes et une femme qui meurt tous les 2 jours et demi, ce n'est pas secondaire. Je pense que la vie des femmes n'est pas secondaire.
Monsieur,
je vous ai laissé. Je vous entends pas. Je parle en même temps. Donc,
D'accord, parlez.
Ce que je vous disais, c'est que pour moi, la mort des femmes, le corps des femmes, la violence sur les corps des femmes, ce n'est pas un sujet secondaire. Et je pense qu'il ne s'agit pas de diviser. Quand on observe des questions qui sont graves, qui peuvent porter atteinte au corps des femmes et à leur vie, le fait de les dénoncer, c'est permettre de dépasser cela pour justement avancer ensemble. Je pense que quand je viens parler avec André Bercoff à son micro, alors que en termes d'idées, beaucoup de choses nous opposent, je ne fais pas de la division. Au contraire, je fais un pas vers une personne qui ne pense pas la même chose que moi pour qu'on puisse échanger et avoir, réfléchir à un projet de société qui nous permette d'avancer ensemble. Diviser, au contraire, c'est justement se terrer d'un côté et refuser, en fait, de confronter ses idées à d'autres. Ce que je fais ici, c'est de venir confronter mes idées. Et je pense que c'est un petit peu parler d'arnaque pour une personne qui travaille sur des questions. Je veux dire, moi, mon livre, il vient d'une étude. Vous, quand vous dites « je connais des femmes qui », vous n'allez pas m'apprendre ce que c'est que d'être une femme. Vous connaissez des femmes, je suis une femme, et je suis une femme depuis 42 ans, donc je pense être mieux placée que vous pour dire ce qu'est une femme, non seulement parce que je suis une femme, mais en plus parce que c'est un sujet que j'ai étudié, contrairement à vous,
Rocaïa,
je pense.
Je voudrais juste, pour revenir au point primaire qui est intéressant, qui est au-delà de ce que vous dites et qui est tout à fait légitime, est-ce que effectivement aujourd'hui, on ne pourrait pas dire, sans minimiser la chose ou l'égaler, que ce féministe ou cette ultra-féministe, encore une fois, je ne parle pas de vous spécifiquement, peut-être qu'il y a, alors ce que dit notre auditeur, qu'il y a des combats plus urgents, est-ce que ce combat-là ne masque pas le reste ? Au contraire, ce que vous dites vous, au contraire, il permet de clarifier les choses. Parce que le vrai problème, il n'y a pas les vrais problèmes, tous les problèmes sont vrais, ou pas non plus, enfin, je ne fais pas de hiérarchie là-dessus, mais est-ce que les problèmes, par exemple, de chômage, de les problèmes communautaires, les problèmes de précarité, les problèmes de tout ça, est-ce que justement le fait d'une division de femmes et hommes ne peut pas peut-être les masquer ou en tout cas les diminuer ou les rétrécir ?
Alors, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on puisse penser qu'on est forcément concentré sur un combat unique. Moi, j'ai marché contre la réforme des retraites l'année dernière, j'ai soutenu les gilets jaunes, je suis féministe, je suis antiraciste, je lutte contre l'homophobie. C'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs choses simultanément. Et moi, qu'on me dise qu'il y a quelque chose de moins urgent, de plus urgent que la femme qui est morte avant-hier sous les coups d'un homme, je comprends pas, en fait, ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui est plus urgent que la vie d'une personne ? Qu'est-ce qui est plus urgent que ça ?
Il y a aussi des hommes qui meurent, comme vous le savez...
sous les coups de femmes, beaucoup moins.
Oui, enfin... De racailles ou autre chose, peu importe.
Mais de manière générale, bien sûr, mais je veux dire, après, j'ai le droit...
Toute vie humaine est valable, homme ou femme.
Mais là, on sait d'où provient la violence, c'est-à-dire qu'on sait que ça découle du patriarcat. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose de se mobiliser. Ça n'empêche pas d'être solidaire d'autres causes. Mais je trouve qu'au contraire, quand ce monsieur dit qu'il y a des choses plus urgentes, c'est lui qui organise une forme de concurrence parce qu'il considère qu'on ne peut pas se mobiliser pour plusieurs choses à la fois. Moi, je me mobilise pour plusieurs choses à la fois. Il y a des gens qui ont faim en ce moment parce que la population française s'est appauvrie. Il y a des associations de caritatives en fait qui sont en rupture de stock pour distribuer de l'alimentation. Ça m'intéresse aussi. La question de la santé mentale aujourd'hui, le fait que 41% des personnes âgées soient déprimées depuis septembre plus que par rapport à l'année dernière, ça m'intéresse aussi. Mais je peux faire cette bande dessinée, parler de la santé mentale, parler de la faim chez les Français et parler des violences contre les femmes. Je pense que c'est simultané. C'est-à-dire que moi, je pense que ce monsieur ne fait pas confiance en l'intelligence humaine. On peut se mobiliser sur plusieurs causes et s'intéresser à plusieurs choses. Et c'est pas divisé de dire qu'aujourd'hui, il y a de la pauvreté en France. Au contraire, et la pauvreté touche évidemment plus encore les femmes qui sont en situation de précarité.
Allez, vous continuez de nous appeler en tout cas pour ces débats qui vous touchent beaucoup en tout cas. Et vous nous appelez encore, hein, 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états.
Mais non, les carottes ne sont pas cuites chez André Bercoff qui reçoit Rocaïa Diallo aujourd'hui qui nous parle de sa bande dessinée M'explique pas la vie, mec, aux éditions Marabout. On donne tout de suite la parole à Sophie qui nous appelle de Loire-Atlantique. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour Sophie.
Bonjour. En fait, je voulais intervenir, c'est par rapport à tout ce qui se passe sur le féminisme. Parce qu'en fait, j'ai une femme. J'ai l'impression que dans ce mot, on nous met dans un carcan, on nous met dans une boîte, on nous met dans un bloc. Alors, je suis pas, dans tout ce qu'on entend, je ne me sens pas féministe. Autant je revendique le droit d'avoir été à un moment de ma vie agent de maîtrise en grande distribution, je revendique le droit d'avoir fait mes formations, d'avoir été aussi infirmière. Je revendique tous ces droits-là parce que ce sont mes droits. Mais je ne revendique pas l'égalité, je revendique juste l'équité. C'est-à-dire qu'avant tout, je suis une femme. Et là, à l'heure actuelle, je suis une mère. Une mère de 3 enfants. Et je me retrouve en difficulté certaines fois à faire reconnaître mon droit à vouloir élever mes enfants. dans une société qui casse la gueule, excusez-moi du mot.
Oui, oui.
Mais où j'ai envie de faire reconnaître, en fait, ma capacité à être maman, à faire l'éducation de mes enfants, et que l'éducation nationale, de ce côté-là, elle porte très mal son nom. Elle devrait porter le nom d'instruction nationale, parce qu'elle n'est pas là pour éduquer mes enfants à ma place, et que de ce côté-là, je revendique, oui, c'est vrai, mon droit d'être une femme et d'être une mère. Voilà.
Oui. Je crois que c'est très important ce que vous venez de dire, effectivement. Revendiquer son droit d'être mère, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. Et puis, non. Revendiquer l'éducation de ses enfants. C'est vrai, Okaya, parce qu'il y a aussi ça, et encore une fois, on parle géant, c'est qu'il y a cette chaussée, et moi, c'est vrai, c'est ce qui nous... Enfin, on est en désaccord là-dessus, cette chosification féminisme, cette femme, elle se sent femme, et parce qu'elle se sent femme, elle a envie d'éduquer ses enfants. C'est aussi une forme de manière d'être femme qui est au moins aussi respectable que les autres, en tout cas.
Bah, la féminité est plurielle, hein. Moi, je le dis toujours, je suis pro-choix. Donc, si madame ne se reconnaît pas dans le terme de féministe, c'est pas grave, en fait. L'important, c'est pas le label, c'est surtout les valeurs qu'on défend. Ce qui m'importe, pour moi, c'est qu'il y ait... Moi, c'est vrai que je suis fervente défenseuse de l'égalité femme-homme. Après, madame se sent mère et pense que c'est son rôle, c'est un rôle qui est important, qui est fondamental dans sa vie, c'est son choix, et moi, je la soutiens dans ça. Après, il y a des femmes... Mais de toute façon, les femmes, même si elles, si elles désirent... s'occuper, que son travail en fait soit le travail d'éduquer ses enfants, de s'occuper de sa sphère domestique, c'est un travail respectable et moi je respecte complètement. Après, elle a dit qu'elle a travaillé à plusieurs...
pas un travail rémunéré, c'est là que je
non mais c'est pour ça que je parle de travail en fait. C'est ce que disent les féministes depuis les années 70, madame, c'est que le travail domestique n'est pas rémunéré alors que c'est un travail qui produit en fait, qui produit socialement et qui, donc là-dessus moi je vous rejoins. Je pense que tout ce qui contribue à la vie sociale devrait être soutenu et rémunéré. Maintenant, ce que je trouve important de dire, c'est que toutes les femmes ne revendiquent pas forcément la position de mère. Il y a des femmes qui choisissent de ne pas être mère et je pense qu'elles sont tout aussi respectables. C'est une liberté aujourd'hui et que la féminité n'est pas forcément liée à la maternité.
Celle qui ne veut pas être mère ne l'est pas. Celle qui ne veut pas cette responsabilité ne l'est pas.
Bien sûr.
Et celle qui actuellement ne sait pas assumer l'éducation de ses enfants s'en remet à l'éducation nationale. Sauf que l'éducation nationale, c'est pas son rôle. L'éducation nationale, c'est l'instruction nationale. Et là, on est vraiment dans le carcan dans lequel on nous met en parlant de féminisme. Mais après, je n'ai peut-être pas vos définitions et ça, je m'en excuse parce que c'est vrai que c'est quelque chose, je me sens dans un carcan. Dans vraiment quelque chose dans une boîte très resserrée quand on me parle de féminisme. Parce que c'est comme si on me mettait juste à l'endroit d'une femme. Ben non, je suis pas une femme que, justement, je suis un humain, je suis humaine. Mais dans mon humanité, ben là, je suis une citoyenne, je suis une maman, je suis une femme. J'ai été active dans ma vie professionnelle, j'essaie d'être active dans ma vie sociale et, enfin, comme je le peux à l'heure actuelle, hein, c'est un peu difficile, tout est relatif, mais... voilà, je pense que ça se ressent dans ma voix, que ça me touche énormément, parce que c'est...
Tout à fait.
Quand on parle de féminisme, on nous met tellement dans des... On nous met autour d'un ruban rose, quoi. Mais je ne me sens pas dans ce ruban rose, parce que je suis pas révolutionnaire non plus, mais... Moi, ma priorité, maintenant, en tant que femme, et en tant que... Oui, voilà, en tant que femme... C'est avoir ma situation auprès de mon époux, avoir ma situation auprès de mes enfants, mais savoir défendre auprès de la société que, oui, là, à l'instant T, ben, j'ai envie d'être mère.
Mais ça,
et quand
ça, personne
envie de parle. L'être, on ne me le reconnaît plus.
Et mais on me met dans ce cas-là... Économiquement, on ne le reconnaît plus.
Mais ça, c'est un vrai débat de société. C'est-à-dire que les féministes, en fait, en tout cas celles que je soutiens, reconnaissent le travail qui est fourni par des femmes, y compris quand il n'est pas salarié. Et ça, c'est depuis les années 70, avec Christine Delphi, par exemple, qui, justement, a participé avec d'autres féministes à imposer le fait que ce travail-là, c'est un travail non rémunéré. Mais c'est quand même un travail. Et ça, là-dessus, moi, je suis d'accord. À partir du moment où on fournit... On a une activité qui
fournit... Il faut élever ses enfants,
c'est du travail. C'est du travail qui n'a pas la reconnaissance de la rémunération.
Et il ne l'a toujours pas,
mais
d'ailleurs.
C'est un vrai débat.
Ça n'est pas reconnu par l'État comme un travail.
Tout
absolument.
À fait.
On nous pique notre poste. En fait, on me pique mon poste par l'éducation nationale.
Mais c'est comme les travaux domestiques, c'est un travail aussi qui n'est pas rémunéré.
C'est pas parce que j'ai les dents contre eux, faut pas croire que j'ai les dents contre l'éducation nationale non plus, pardon.
Non, mais après, sur la question de l'instruction, je pense que c'est important de dire aussi que même si vous élevez vos enfants, ils sont aussi conditionnés par d'autres sphères. C'est-à-dire que malgré tout, le fait que vos enfants puissent avoir une vie extérieure à travers l'école, à travers ce à quoi ils peuvent être exposés dans les médias et sur les réseaux sociaux, c'est aussi, ça participe aussi à leur formation. Et donc, c'est des choses sur lesquelles il faut aussi être vigilante. Mmh.
Clémence, voilà. Peut-être
merci
un
beaucoup.
Dernier
Alors, très rapidement, on donne la parole à Pierre de Toulouse.
Oui, Pierre.
Bonjour.
Bonjour, Pierre.
Considérer la femme comme l'égale de l'homme, c'est faire la différence entre la courtoisie et la galanterie. Il s'avère que lorsque l'homme est trop galant, il enlève une part de la femme au sens de son égalité. Et je vous donne un exemple précis. Moi, je suis un homme d'affaires, et lorsque je veux être influent sur une affaire, c'est-à-dire faire baisser la garde d'un homme comme d'une femme qui est en face de moi, oui. Je vais lui mettre la main sur son épaule. Ce qui veut dire qu'automatiquement, le lien qui me lie à la personne en lui mettant la main sur l'épaule va lui faire perdre 50% de ses moyens. Et malheureusement, aujourd'hui... Ouais. Carrément, ça je peux vous le dire, carrément. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la vraie question entre l'homme et la femme, c'est que l'homme utilise cette façon d'être extrêmement galant qui, quelque part, la rabaisse. Et tant que l'homme... Alors bien sûr, moi on me dit, tu n'es pas assez galant. Mais moi, je considère la femme comme l'égale de l'homme, et donc automatiquement, en effet, peut-être que je ne vais pas lui tenir la porte lorsque je vais sortir d'une pièce, parce que justement, je considère qu'elle est l'égale de l'homme. Et tant que justement, on continuera à infantiliser quelque part la femme, c'est-à-dire à la rabaisser à un niveau où, parce qu'on la met sur un piédestal comme une fleur, comme... Enfin, automatiquement, elle ne pourra pas justement être l'égale de l'homme.
Oui, moi je pense que la galanterie c'est une forme effectivement de condescendance, mais la politesse ça peut aussi exister, c'est-à-dire que moi je tiens à la porte des gens qui passent derrière moi, quel que soit leur genre. Donc après effectivement ne pas conditionner sa politesse au genre de la personne, pour moi c'est ça l'égalité.
Eh ben écoutez, on finit sur l'égalité, vous voyez. On va toujours finir sur l'égalité, ça c'est important.
Allez, merci beaucoup André Berkoff, merci beaucoup Rocaillello. Je rappelle merci. Votre bande dessinée M'explique pas la vie, mec aux éditions Marabout, et d'une bande dessinée à l'autre, dans quelques instants chez Brigitte Lahaye, un autre auteur de BD, Philippe Brunot, L'incroyable histoire du sexe. Voilà, c'est à retrouver aux éditions Les Arènes, à tout de suite.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.
Avec le parfum d'Air de France, 100% des bénéfices au service de notre pays.